L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire cette recette? Pas grand chose.
Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la moutarde.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Dans les cuisines livresques, il existe un ingrédient indispensable. En effet, comme les pâtisseries ont besoin de farine, les livres sont de papier. Il faut donc préparer une bonne pâte à papier pour imprimer un bon livre. Et il s'agit, vous vous en doutez, d'un savoir-faire centenaire. Centenaire, comme certains de ces arbres, qui partagent avec nous, êtres humains, leur bois. Centenaires, comme certains de nos aïeuls, dont la peau, avec le temps, ressemble à de l'écorce.
Je connais un arbre au fond de la forêt. Je connais un arbre qui sait parler. Si tu sais attendre, si tu n'es pas pressé, tu pourras comprendre ce qu'il veut te raconter. Je suis né il y a longtemps, il y a peut-être 1000 ans, je ne sais pas compter.
Je suis en compagnie de Catherine Laine. Catherine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante-chercheuse en biologie végétale, pardon, à l'université Clermont-Auvergne.
Oui.
Oui, donc... Je ne sais pas si mon introduction était claire. Madame Laine, vous êtes spécialiste des arbres.
On peut dire ça, si on veut, oui.
On peut dire ça. Spécialiste de tous les arbres, du bourgeon au chêne centenaire?
Alors oui, parce que quand on étudie les arbres, il faut connaître leur développement, savoir comment ils se construisent, comment ils poussent. Donc oui, du bourgeon jusqu'au centenaire.
Et vous êtes aussi autrice, donc... Vous travaillez quelque part cette pâte à papier. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos livres, de vos recherches?
Oui, bien sûr. Donc, je vais commencer par mes recherches. Je travaille dans un laboratoire de recherche à Clermont-Ferrand qui étudie les arbres et qui essaye de comprendre comment ces géants perçoivent les facteurs de leur environnement et comment ils répondent à ces facteurs. Donc, on parle de sensibilité des arbres. C'est là-dessus que je travaille.
D'accord. C'est un sujet bien spécifique.
Pardon.
Vous m'entendez?
Oui, je vous entends.
Pardon. C'est un sujet bien spécifique. En tout cas, ce n'est pas quelque chose que personnellement je connaissais. Donc, vous êtes la première à effectuer ces recherches, peut-être?
Alors non, je ne suis pas la première. Hein. C'est-à-dire que la sensibilité des plantes est étudiée depuis des dizaines d'années, voire des siècles, hein, puisque l'un des premiers à citer, c'est Charles Darwin. Qui étudiait, qui regardait comment les plantes se redressaient à la verticale quand il les avait mises à l'horizontale, par exemple.
D'accord.
Donc, on est nombreux dans le monde à travailler sur cette sensibilité végétale, un peu moins nombreux à travailler sur les arbres, parce que c'est moins facile.
Quelles sont les difficultés?
Alors, les difficultés, on s'en doute, c'est qu'un arbre, c'est volumineux et ça pousse très lentement. Ah. Donc, dans un laboratoire, c'est pas facile à manipuler, de par sa taille, et puis attendre qu'un arbre pousse, c'est long, et le temps de la recherche, en général, n'est pas le temps de l'arbre. Donc, on travaille beaucoup sur de petits arbres, sur des arbres en début de vie, pour arriver à étudier leur croissance.
D'accord. Comment vous est venue cette passion pour les arbres?
Alors, écoutez, la passion pour les arbres, elle se décline à partir de la passion pour les plantes, et je dirais que dans ma jeunesse, il y a eu deux grands personnages, deux mentors qui ont marqué ma vie et ensuite mes études. Le premier, c'était Jean-Marie Pelt, qui était un grand vulgarisateur du monde végétal, disparu il y a peut-être une dizaine, quinzaine d'années maintenant. Et puis le deuxième, qui vient de nous quitter et pour qui j'avais une grande tendresse, c'est Francis Allais, le grand botaniste dendrologue, c'est-à-dire spécialiste des arbres dans le monde. Et Francis, les écrits de Francis ont bercé ma jeunesse et mes études.
Francis Allais qui préface d'ailleurs votre ouvrage « Dans la peau d'un arbre ». Secrets et mystères des géants qui vous entourent. Vous avez eu la chance de collaborer avec lui sur des recherches ?
Alors, pas vraiment collaborer, parce que nous n'étions pas de la même génération, mais j'ai eu la chance de qu'il s'intéresse à mes travaux de recherche, travaux sur la sensibilité des arbres, et puis qu'il s'intéresse à mes écrits de vulgarisation. Et il a eu cette gentillesse de préfacer mon deuxième ouvrage, Dans la peau d'un arbre, et j'en étais très fière.
C'est donc combien de livres avez-vous écrit au total ?
Alors j'en ai écrit 3.
Oui.
Le tout premier, c'était Dans la peau d'une plante.
Oui.
C'était plus généraliste sur le monde végétal. Le deuxième, donc Dans la peau d'un arbre, qui faisait en 2021, qui faisait le bilan de toutes les connaissances scientifiques qu'on a sur les arbres, qu'on avait sur les arbres à l'époque.
Oui.
Et enfin, vous avez dit Bizarbre, qui est mon petit dernier paru en 2024 et qui présente plutôt des portraits d'arbres qui sortent de l'ordinaire.
Donc qui est paru aux éditions Belin.
Oui, les 3, oui.
Voilà. Et donc vous avez dit Bizarbre, effectivement, qui est un livre objet, un livre curiosité, un livre assez drôle et qui va permettre d'entrer dans ces notions scientifiques qui ne sont pas évidentes au premier abord. Je crois que c'est quelque chose que vous aimez à défendre que la vulgarisation scientifique.
Oui, complètement. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, d'arriver à transmettre mes connaissances et les connaissances construites récemment dans les laboratoires vers le grand public. Et j'aime bien, comme vous le soulignez, le faire de manière amusante. C'est-à-dire que je ne veux pas que les gens s'ennuient en lisant ou en découvrant ces choses-là. Et j'essaye de les prendre par la main et de leur expliquer les notions difficiles parfois, mais en utilisant des images, des analogies, et puis bien sûr en expliquant les vrais mots, les vrais mots du jargon scientifique.
Quel est l'arbre le plus bizarre que vous ayez déjà rencontré ?
Ah, c'est difficile de les hiérarchiser, si j'ose dire, hein, parce que un arbre bizarre, c'est un arbre devant lequel on fait « Waouh, qu'est-ce qu'il a celui-là ?» Donc c'est un arbre qui sort de l'ordinaire, qu'on pense connaître, et le plus bizarre peut-être, ce sont peut-être les arbres tortueux, hein, ces hêtres ou autres essences, mais c'est surtout le hêtre dont les branches font des zigzags et s'emberlificotent, donc ce sont des arbres assez surprenants effectivement, mais il y en a plein. Hein.
J'ai eu la chance de vous entendre dire lors d'une rencontre, parce que vous êtes venu à Montpellier récemment, que nous portons tous un arbre en nous. Oh. Est-ce que pour vous c'est une vérité universelle et le cas échéant, quel arbre portez-vous ?
Oui, alors je pense que c'est assez vrai, c'est-à-dire qu'on a tous un arbre dans notre mémoire vers lequel on va se tourner pour raviver de beaux souvenirs. Et puis, alors lequel ? On peut en avoir plusieurs, hein, bien sûr. Moi, je dirais que j'en ai peut-être deux, c'est-à-dire que les premiers, c'est plus un groupe d'arbres, ce sont les arbres, les pins maritimes de mon enfance, dans lesquels je grimpais avec mes frères et sœurs et mes cousins pour construire des cabanes. Donc, il y a ces arbres jeux de l'enfance.
Oui, oui.
Et puis, maintenant, il y a un arbre près de chez moi qui est un vénérable, un chêne de toute beauté, je trouve, et j'aime aller à son pied pour le contempler et me ressourcer.
Effectivement, maintenant que... Quand vous l'aviez dit déjà précédemment, ça m'avait fait penser de suite à un arbre. Et là, vous parliez d'arbres d'enfance, c'est évocateur, très vite.
Oui.
Je ne sais pas si en régie aussi, oui, on me confirme, c'est drôle. Hein,
chacun parce que... a son arbre d'enfant.
Oui, ouais, ouais. On n'y penserait pas comme ça, une fois devenu adulte et morne. Mais finalement, l'enfant en nous se souvient de l'arbre à cabane ou de l'arbre à cerise.
C'est ça, voilà.
Alors, donc vous disiez, vous avez dit Bizarbre, c'est votre troisième ouvrage. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu, puisque vous êtes, vous, scientifique de métier, comment une scientifique devient autrice ?
Alors, c'est un parcours peut-être personnel. Il y a ce goût de transmettre, donc qui m'a amené à l'écriture. Il y a aussi le goût de la photographie, parce que je fais de la photographie, et je trouve que c'est une entrée intéressante en science que de passer par l'œil, par la contemplation. Donc il y a dans mes ouvrages beaucoup de photographies qui sont les miennes, pour dire que ce soit plus facile à aborder. Et enfin, je pense aussi que dans les sciences, celle que j'ai choisie, la biologie, c'est peut-être la science la plus littéraire, parce que c'est celle où on peut raconter des histoires de vie, la vie des autres, que ce soit la vie animale ou la vie végétale. Donc il y a quand même une dimension narrative dans la biologie.
D'accord. Et les arbres sont porteurs donc de souvenirs, de liens, sont porteurs d'histoires, de manière très pratico-pratique, en pâte à papier, de manière peut-être assez terrible d'ailleurs pour vous. Comment est-ce que vous vivez ce lien un peu bicéphale?
Oui, donc des liens affectifs, des liens utilitaires, puisque les arbres fournissent du bois, et avec ce bois, on va faire de la pâte à papier. Mmh. Donc on a effectivement des êtres qui sont utilisés par l'homme, et depuis la nuit des temps, les sociétés humaines ont toujours été liées au bois, et donc aux forêts, avec plus ou moins de bonheur, puisque on a parfois trop défriché, mais on utilise l'arbre depuis toujours, oui.
Et ça, c'est quelque chose que vous arrivez émotionnellement à contenir, ce paradoxe?
Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que je suis bien consciente que nous avons besoin de bois, pour nos habitations, pour nos mobiliers, pour nous protéger, pour nous chauffer, et ça depuis toujours. Par contre, je pense qu'on peut gérer durablement les forêts par des modes de sylviculture qui vont respecter les cycles de vie des arbres et éviter la destruction des sols. Donc on a certainement à réfléchir à des modes de gestion plus durables dans notre monde actuel.
Parce que donc, les humains, les hommes ont besoin des arbres, mais la réciproque est-elle vraie?
Alors, pas du tout. les arbres sont sur les formes arborescentes, parce qu'il y a eu beaucoup de sortes d'arbres différentes au cours de l'évolution, des arbres qui ont disparu maintenant, mais les premiers arbres sont datés environ d'il y a 395 millions d'années à peu près. Et nous, c'est 300 000 ans, l'homme, donc les arbres sont là depuis bien plus longtemps que nous, et je pense qu'ils nous survivront. Et donc, nous ne sommes qu'une espèce animale parmi d'autres, et avant l'apparition de l'homme, les arbres vivaient parfaitement adaptés à leur environnement, sans nous, donc non, ils n'ont pas besoin de nous.
Sur ces considérations dans le temps long, nous allons écouter le choix musical que vous avez décidé de partager avec nos auditeurs.
Les arbres ont à me dire, j'écoute ce que les arbres ont à me dire, le printemps les inspire. Ce que les oiseaux ont à me dire, j'écoute ce que les oiseaux ont à me dire, les arbres les attirent. Alors, ils chantent pour leur plaire, ils chantent pour les remercier du vert. Alors, ils chantent pour la terre, ils chantent pour la remercier de l'air. Ce que les fleurs ont à me dire, j'écoute ce que les fleurs ont à me dire, le soleil les inspire. Ce que les abeilles ont à me dire, j'écoute ce que les abeilles ont à me dire, les fleurs les attire. Alors, elles dansent pour leur plaire,
Elle danse pour les remercier du verre. Alors, elle danse pour la terre. Elle danse pour la remercier de l'air.
Vous écoutez Les Pluches Livres, nous sommes en compagnie de Catherine Laine. Catherine, vous êtes toujours là ?
Oui, je suis toujours là.
Donc, vous êtes autrice, vous êtes enseignante-chercheuse en biologie végétale à l'Université Clermont-Auvergne de Clermont-Ferrand. Et
oui.
Vous vous êtes donc intéressée, comme nous l'avons vu en première partie d'émission, aux arbres qui nous sont chers, aux arbres bizarres, et vous avez aussi... en tête de la musique, ce morceau que vous avez choisi pour nous. Pourquoi ce choix ?
Alors, c'est un morceau qui parle d'une saison que j'affectionne beaucoup et que beaucoup aiment également, c'est le printemps.
Mmh.
Et le printemps, c'est la saison du renouveau, et dont le renouveau et le réveil des arbres qui vont mettre en place leurs feuilles et leurs fleurs. Donc ça, c'est le côté un petit peu scientifique et biologique de la chanson. Et puis, l'autre raison, c'est que je suis aussi chanteuse dans un groupe de musique qui s'appelle Avec ou sans Michel. Et ce groupe, avec trois amis, nous reprenons de la chanson française, dont cette chanson, justement, Printemps, qui est une chanson d'Yvan Marc. Et Yvan Marc, c'est aussi... un compositeur qu'on aime parce qu'il est aussi local en Auvergne, c'est un compositeur auvergnat. Donc voilà toutes ces raisons.
Ce sont de très belles raisons. Est-ce qu'on pourra mettre en lien votre reprise sur le podcast une fois l'émission
avec
diffusée ? Oui, super. Donc comme ça, nous pourrons faire partager votre talent, vos
Merci.
Talents multiples. Vous avez énormément de casquettes. Donc on l'a cité tout à l'heure, vous travaillez, et ça vous tient à cœur, à la vulgarisation scientifique. Vous avez été ambassadrice de la Fête de la Science pour votre région en 2025.
Oui.
Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Sur quelle route cela vous a mené ?
Alors, c'était intéressant parce que la thématique de cette Fête de la Science 2025 était les intelligences.
Mmh.
Et dans les intelligences, il y a un pluriel. Donc, ça m'a permis de rencontrer des gens qui parlaient d'intelligence humaine,
oui.
d'intelligence animale.
Mmh.
Et moi, je donnais ma voix sur l'intelligence végétale, ou du moins sur... a-t-on le droit, est-ce que c'est légitime de parler d'intelligence végétale, en particulier chez les arbres ?
Et est-ce que c'est légitime ?
Alors, en deux minutes, ça va être un peu court.
on peut faire trois, on peut peut-être même faire cinq. Il y a des gens qui disent que les arbres
sont intelligents.
Oui.
Moi, je dis, en deux minutes, c'est simplement dire, tout dépend de ce qu'on met derrière le mot intelligence.
Ah.
Comment on définit ce terme-là ? Voilà.
Et dans le monde arboricole, comment on définit le terme d'intelligence ? Est-ce qu'il est plus intelligent de s'approprier ce qui est au voisin, ou est-ce qu'il est plus intelligent de croître ensemble ?
Très belle question. L'intelligence, ça peut déjà se comprendre comme comment fait-on pour régler les problèmes auxquels on est confronté tous les jours de la vie. Et ça, l'arbre est parfaitement capable de résoudre toutes les contraintes, tous les problèmes et les contraintes auxquelles qu'il assaille. Donc, une forme d'intelligence qui est en fait une adaptation et une adaptabilité, c'est-à-dire la capacité à changer son fonctionnement en fonction des contraintes de l'environnement. Voilà, et ensuite, oui, vous citiez l'idée de vivre ensemble.
Oui.
Alors, la vie ensemble, bien sûr, un arbre, ça ne vit jamais seul. Ça accueille des dizaines, voire des centaines d'espèces différentes. Ça vit entourée de congénères. Et donc, il y a des processus de défense, des processus d'alliance, des échanges de substances entre les champignons et l'arbre, par exemple. Donc, c'est très riche. La vie sociale de l'arbre, la vie de relation de l'arbre est très riche.
Donc, on peut parler d'intelligence collective ici ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là. C'est toujours pareil. La seule chose que je vais rajouter, peut-être, ce qui me gêne parfois, c'est que on cherche à tout prix à vouloir coller notre intelligence sur celle des arbres.
C'est intéressant.
Qu'ils sont
ça.
Comme nous.
C'est intéressant.
Et donc, quand on fait ça, je pense que c'est très anthropocentré.
Effectivement.
Et qu'on nie l'altérité de l'arbre. L'arbre, c'est un être autre. Et il est fascinant par cette altérité parce qu'il a un mode de fonctionnement qui est différent du nôtre et il a des capacités que nous n'avons pas. Donc je pense qu'il est suffisant de regarder le fonctionnement de l'arbre et de s'en émerveiller parce que c'est un extraterrestre cet arbre par rapport à nous.
En quoi est-il extraterrestre ?
Eh bien écoutez, imaginez-vous à sa place.
Oui.
Mettez-vous à sa place.
Avec plaisir.
Voilà, donc je vous métamorphose en arbre. Vous vivez tout nu, les pieds fixés dans le sol, ne pouvant fuir le danger, ne pouvant vous mettre à l'abri des intempéries, ne pouvant rejoindre votre partenaire sexuel, ne pouvant vous nourrir que de ce qui vous entoure et qui est très dilué autour de vous. Donc tout ça, c'est de véritables exploits d'arriver à résoudre toutes ces contraintes-là.
D'accord. Et ça, les arbres le font quelque part sans même y penser.
Au quotidien.
Au quotidien. Mais font-ils des choix dans la manière justement dont ils s'approprient cet environnement qui est subi ?
Alors effectivement, la notion de choix et de décision, est-ce qu'on peut aller jusque-là ? On constate que dans la croissance, par exemple, d'un axe, d'une branche, d'une racine, il va y avoir une analyse du milieu, une perception de différentes informations qui vont être intégrées dans l'arbre. On ne sait pas comment, parce qu'il n'y a pas de cerveau. Et cette intégration va conduire à un comportement végétal qui peut être un mouvement de croissance, donc un geste, si vous voulez, très lent, bien sûr, mais un geste. Est-ce qu'on peut assimiler ça à un choix, à une décision ? Je ne sais pas. En tout cas, on peut décrire des comportements végétaux qui sont tout à fait comparables à des comportements animaux.
Donc, vous disiez qu'il y a tout un écosystème qui vit par l'arbre, dans l'arbre, mais est-ce que les arbres utilisent aussi un système d'entraide, comme peuvent le faire certaines espèces aquatiques, certains animaux qui vont se protéger les uns les autres ou s'apporter des bénéfices mutuels ?
Oui, alors ça c'est une question qui est brûlante. C'est-à-dire, la question que vous posez, c'est ce qu'on appelle un front de science. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette question, elle est posée à toutes les équipes de recherche qui s'intéressent à ça dans le monde, et elle n'est pas, il n'y a pas de consensus scientifique là-dessus. Ça veut dire que, en ce moment, ça débat, ça fait des recherches, ça trouve des choses, ça contredit, etc. Donc les médias parfois vont un peu trop vite en disant que les arbres communiquent entre eux, qu'ils se défendent, qu'ils s'entraident.
Oui, on a beaucoup entendu ça. Ouais,
voilà, on lit parfois des choses, ça me fait sourire souvent parce que je me dis, les journalistes vont plus vite que les chercheurs. et je pense qu'il faut laisser le temps aux chercheurs et aux chercheuses pour conclure, pour aboutir à un consensus. Vous savez, la science, ça se construit comme ça. Ça se construit par du débat. Et à partir du moment où un certain nombre de personnes dans la communauté, une fois que la communauté scientifique se met d'accord, bon là il y a un consensus et on peut dire que le savoir est établi, le savoir devient un savoir solide et non plus un front de science. Donc dans la communication entre les arbres, je pense qu'on est toujours encore dans ce front de science. Alors on a beaucoup de choses qui montrent, beaucoup de résultats qui montrent que les arbres sont capables d'émettre des substances, des messages si vous voulez, qui peuvent être perçus par l'arbre voisin, qui va répondre à cette perception du message. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que c'est une véritable communication ou est-ce que la communication, elle est destinée à l'arbre lui-même, le premier, celui qui émet les messages, et que ces messages débordent et sont perçus accidentellement par les voisins. Voilà, vous avez une autre interprétation, là, ce que je viens de dire en deux mots, mm-hmm. c'est une autre interprétation des faits scientifiques. Quand en science, on va établir des faits et on va les interpréter. Et parfois, les interprétations diffèrent. On n'est pas d'accord sur la façon d'interpréter les faits. Et c'est là où on est encore dans le débat.
D'accord. Donc, vous parlez de démarche scientifique. Il y a une méthode scientifique ?
Bien sûr.
Quelle est-elle ?
Bien sûr, il y a la démarche scientifique, elle est tout à fait établie. Alors, c'est pas un truc linéaire. Hein. C'est on se pose une question, on fait une hypothèse, on cherche à trouver des preuves, donc à confirmer cette hypothèse, ou au contraire à l'infirmer, c'est-à-dire que les résultats négatifs sont toujours aussi intéressants. Et puis, on va exposer ces faits et l'interprétation qu'on en fait aux collègues, à la communauté scientifique. C'est-à-dire qu'on doit publier nos résultats. Et cette publication, quand elle est acceptée, elle va donner naissance à du débat, à des contre-publications, etc. Donc oui, la démarche scientifique, elle est bien établie. Les critères qui établissent que c'est bien des faits scientifiques qui sont connus également. Donc on est assez rationnel et on a des garde-fous, en fait, beaucoup.
Ces garde-fous qui sont très importants pour éviter, justement, je présume, la loi de celui qui parle le plus fort.
Oui, et puis pour éviter de tomber dans ce qu'on appelle les pseudo-sciences, qui se disent et s'émettent sans preuve. Tout ce qui est publié en science est fondé sur des arguments, sur des preuves. Donc rien n'est avancé au hasard et tout est soutenu par des piliers fondateurs que sont les preuves.
Et donc on peut effectivement réussir à raconter des histoires, à raconter l'histoire de ces preuves et de ces découvertes scientifiques, sans raconter des histoires au sens de sans raconter n'importe quoi. Vous êtes, je crois, en train de terminer un projet d'écriture, en parlant d'histoire.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous expliquer où vous en êtes, où vous en est venue l'idée, le sujet aussi peut-être ?
Alors, en fait, c'est un projet qui est en cours, effectivement, et qui va différer un tout petit peu de ce que j'ai fait jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, j'ai insisté tout à l'heure en parlant de l'entrée photographique aussi, de l'image. Mmh. Et là, c'est plus un essai, donc il y a moins d'images, il y en aura un peu, des dessins, il y aura. Et j'ai choisi cette fois une essence d'arbre pour un peu en faire ce qu'on faisait à l'ancienne, vous savez, une monographie. Mm-hmm. La monographie, c'était, on prenait une espèce et puis on la décrivait. Alors j'ai essayé de prendre une espèce d'arbre, une essence, et de regarder un petit peu tout ce qu'on sait sur cette essence-là, et que ce soit d'ailleurs en science et un peu aussi en sociologie, en histoire, etc. Et l'essence, parce que je sais que vous allez me poser la question, quelle est l'essence choisie ? Et donc, j'ai fait un choix un peu particulier, parce qu'il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de livres qui vont parler d'arbres très connus, des livres autour du chêne, autour du hêtre, etc. Et donc, j'ai fait exprès de choisir une essence que j'aime beaucoup aussi, et qui est très, enfin, en général, assez mal aimée, c'est le bouleau.
D'accord.
Parce que ce bouleau, bah, il vit pas très longtemps, il est pas spectaculaire, il atteint pas des dimensions démentielles, donc souvent il est un peu méprisé, et pourtant il a un rôle fondamental en écologie. Mm-hmm. J'essaye de montrer combien il est beau, combien il a des capacités incroyables de croissance, de colonisation du milieu, etc. Voilà. Donc je m'amuse assez parce que évidemment, pour faire ce genre d'essai, bah, il faut que je lise beaucoup de bibliographies scientifiques.
Oui.
Et donc, bah, ça me permet d'augmenter mes connaissances. En fait, j'apprends en écrivant, finalement, aussi. Hein.
Oui, oui, oui. Moi aussi, de même, j'apprends en animant ces émissions radio et c'est toujours un plaisir.
Oui, voilà. Ça, c'est un des moteurs de la vie, hein.
Oui.
Toujours apprendre et augmenter ses connaissances, quoi. Voilà, la curiosité, en fait.
Tout à fait. Vous parliez, le bouleau est un arbre mal aimé parce qu'il vit notamment peu de temps. Combien de temps vit-il ?
Oh bien, chez nous, en France métropolitaine, c'est, disons, entre 60 et 80 ans.
Ah,
c'est-à-dire une vie d'homme.
Une vie humaine,
oui, c'est déjà ça. Mais ça n'est rien à côté des siècles du chêne ou des millénaires de l'olivier, voyez. Donc,
voilà. Alors justement, c'est ma question de la fin. Quel est ou combien de temps peut vivre un arbre ? Quel est l'arbre qui vit le plus longtemps, sachant que je veux quand même un chiffre.
Alors, écoutez, déjà, ça dépend de quoi on parle, parce que là, on va parler longévité moyenne, et puis c'est comme chez les hommes, vous savez, on a la longévité, elle se calcule, et puis on a des individus. Extraordinaires qui vont, alors chez nous, je ne sais plus, la longévité, on est autour de 85 ans, et on va avoir des hommes et des femmes, souvent des femmes d'ailleurs, qui vont vivre 100 ans, 110 ans, 120 ans, hein, le record de l'humanité, c'est 123 ans pour Jeanne Calment, et là, vous avez un individu qui bat tous les records. Donc, est-ce que vous me demandez un individu qui bat tous les records ou bien des longévités générales ?
Gardons quand même plutôt une vérité scientifique, entre guillemets.
Voilà.
Une longévité générale plutôt que le record.
Alors,
du Guinness Book.
Là aussi, pour déterminer l'âge d'un arbre, c'est pas si facile que ça, parce qu'il faut compter les cernes de bois qu'il a mis en place dans son tronc. Vous savez qu'un arbre, un arbre en milieu tempéré, parce que les cernes de bois chez nous sont annuelles, il y a un cerne de bois déposé chaque année, mais par contre sous les tropiques, eh bien, les cernes sont beaucoup plus, je ne trouve pas le mot.
Plus rapprochées, plus fréquentes.
Oui, enfin désordonnées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un cerne par an. On va avoir des arrêts de croissance peut-être liés à des alternances de saisons sèches et de saisons humides, ou bien il y aura à peine deux cernes, on ne les verra pas. Quoi. Donc là, c'est compliqué de calculer l'âge d'un arbre. Donc sur les arbres où c'est possible, on compte les cernes. Bon, déjà, il faut avoir accès à l'intérieur du tronc.
Tout à fait.
Et il faut que le tronc soit entier, c'est-à-dire que l'arbre ne soit pas creux. Vous voyez, il y a plein de conditions. Bon, ceci étant dit, on a des records de longévité pour des pins, donc des conifères, en Amérique du Nord, dans les rocheuses, des arbres qui ont dépassé les 5800 ans.
Ouf, oui,
donc,
d'accord.
5800 ans, ça commence à faire.
Ça,
mais
ça commence à faire
ensuite,
une belle
on a des records beaucoup plus élevés. D'arbres dits clonaux, les arbres clonaux. Alors, qu'est-ce qu'un arbre clonal ?
Vous en parlez dans vos livres des arbres clonaux.
Oui, c'est ça. Donc,
vous avez dit bizarbres.
C'est ça. C'est finalement un arbre qui vit longtemps par sa souche ou par ses parties souterraines et qui va refabriquer des troncs périodiquement au cours du temps. Donc. Et les troncs finalement sont assez jeunes, mais c'est la partie souterraine qui est très âgée. Et ces troncs qui repoussent portent tous, à peu de choses près, le patrimoine génétique de départ. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un arbre, d'un véritable individu, alors que finalement, ce que vous observez, c'est une forêt, finalement. Donc là, dans ce cas-là, un des records, c'est une forêt de peupliers en Amérique, aux États-Unis également, qui porte un nom d'ailleurs, qui s'appelle Pando. En latin, ça veut dire « je m'étends ». Et Pando, c'est une forêt où tous les arbres, tous les troncs, qui ont 60 ou 80 ans à peu près, sont du même patrimoine génétique. Et donc, on suppose qu'ils ont poussé de parties souterraines qui sont toujours là. Et l'âge de Pando serait estimé à 80 000 ans.
De quoi
voilà.
nous
Donc
nous
ça,
remettre,
c'est les records. Mais vous savez, on est friands de records parce que nous, hommes, nous sommes friands de performances.
Oui.
Et moi, j'aime pas trop les records. Je m'en fous, en fait.
Et je pense que quand même là, les arbres savent nous remettre à notre place grâce à ces chiffres que vous venez de nous apprendre. Merci beaucoup, Catherine Laine.
Merci à vous.
Merci, chers auditeurs, et à bientôt sur Les Pluches Livres.
L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la potarde, du pain du beurre.